Bonjour mesdames, messieurs, ici Diane Felici, Michel Poulain. C'est notre rendez-vous de Regard sur le monde. Diane, nos invités d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous recevons M. Nicolas Saint-Pierre, qui est directeur général de la Fondation MIRA. Et on reçoit aussi Mme Solange Roy, qui fut présidente du Conseil des aveugles de Memphrémagog pendant près de 15 ans.
À notre émission Regard sur le monde, une émission qui est dédiée à tout ce qui se passe en termes de déficience visuelle, on a le bonheur d'avoir en ligne le directeur général de la Fondation MIRA, M. Nicolas Saint-Pierre. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
C'est vraiment plaisir.
Écoutez, quand on parle de MIRA, on parle de toutou, on parle de chien, alors on aura l'occasion de parler de tout ça. Mais au départ, quelle est la mission de la Fondation MIRA?
Bien, en fait, la mission de la Fondation MIRA, c'est de pouvoir donner une chance aux gens qui sont déficients visuels, déficients physiques ou qui ont des problèmes cognitifs à avoir un outil pour s'intégrer, développer l'autonomie, être capable d'aller un petit peu plus loin que l'handicap les empêche peut-être de faire.
Monsieur Saint-Pierre, je comprends qu'il y a la Fondation MIRA et également il y a l'organisation MIRA. Ce sont deux entités différentes?
Non, absolument pas. Fondation MIRA, c'est la même chose, absolument la même chose.
OK. Alors, vous parliez d'aider les gens. Vous avez trois catégories. Vous n'aidez pas seulement les non-voyants.
Absolument, absolument. En fait, MIRA est venu au monde grâce au chien guide. En fait, c'était la première école francophone en Amérique du Nord. Donc, on était la première école de chien guide au Canada aussi en 81. Donc, ça a commencé comme ça. C'est avec les chiens guides qu'on a développé toute notre expertise en réadaptation avec des professeurs en orientation et mobilité. L'entraînement, la sélection des chiens, tranquillement, ça allait évoluer d'année en année, on s'apercevait qu'on était capable de donner des meilleurs chiens, la sélection des chiens. Évidemment, financièrement, dans les années 80, c'était pas évident pour mes parents, qui les taux d'intérêt étaient à 22%. Les gens connaissaient pas ça, les chiens guides. C'était quelque chose qu'on voyait très loin, qu'il y en avait aux États-Unis, il y en avait en Europe, mais au Canada, il n'y en avait pas. Donc, toute notre expertise est vraiment venue de l'entraînement des chiens guides, de comment on donne ces chiens-là à des gens non-voyants. Puis, 35 ans plus tard, nous, là.
Bon, il y a différentes catégories, comme on l'a mentionné. Il y a trois catégories. Il y a les chiens guides pour les non-voyants, qui sont les yeux des non-voyants. Il y a également des chiens pour enfants qui sont atteints d'autisme. Et il y a aussi les chiens d'assistance. Maintenant, on va essayer de décortiquer tout ça. Les chiens les plus connus, bien entendu, c'est pour les non-voyants. Comment ça fonctionne? Comment une personne non-voyante, à un moment donné, a un chien? Comment ça part, tout ça?
Bien, en fait, ça part simplement. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut un chien guide, nous appelle. On dit, OK, parfait, on va les rencontrer. Ces gens-là viennent à la Fondation. Puis souvent, on leur demande, s'ils ont le résidu visuel. Après ça, s'ils ont des compétences en orientation et mobilité. Fait que les gens ils viennent chez nous pendant 2 jours. Puis on rencontre souvent les profs qui sont en mobilité, qui travaillent avec ces gens-là, qui viennent à la Fondation. Puis on regarde le quotidien, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, c'est quoi l'environnement, est-ce que c'est des gens qui sont actifs, est-ce que c'est des gens qui sont moins actifs, est-ce qu'ils sont dans un milieu rural plus urbain. Puis, on regarde les capacités en orientation mobilité, si les gens y en ont une base ou sont très avancés. Est-ce que c'est des utilisateurs de cam invétérés ou c'est des gens qui connaissent pas parce qu'ils viennent perdre la vue puis c'est récent. Donc, on regarde tout ça, puis nous, on décide c'est quoi le temps où est-ce qu'on est capable de donner ces chiens-là, parce que souvent, nous, ça nous prend 7 mois à entraîner les chiens. Puis avec la petite liste d'attente, c'est souvent, on donne des devoirs aux personnes qui viennent, qui font une application pour les chiens, puis on leur remet les chiens souvent à peu près entre 6 et 1 an plus tard après l'application.
Comment vous faites l'arrimage entre une personne et un chien? Parce que j'imagine qu'il y a des caractères qui sont différents.
Oui, mais c'est exactement là le superbe côté du métier. C'est en fait, nos chiens, on les connaît. Ils ont passé 7 mois avec eux, fait qu'on commence à connaître leurs moindres petites tendances, qu'est-ce qu'ils sont, comment ils réagissent dans différents environnements. On a beaucoup de gens, on a beaucoup de bénévoles qui sont familles d'accueil, qui ont des chiens pendant la première année, donc on a beaucoup d'informations des chiens dans leur première année de vie. Puis après ça, ben on a l'entraînement. Puis quand on a rencontré les gens en évaluation, puis bon, c'est le temps de la classe, ben on a souvent, je sais pas, moi, disons qu'on a une classe de 8, on a souvent entre 12 et 18 chiens qui sont en banque. Puis bon, on sait à peu près les vitesses des chiens, on sait à peu près les vitesses des gens. Est-ce que les gens, c'est des gens qui sont portés vers les chiens, un peu moins portés, c'est des gens réservés, tout ça. Puis on essaie de coller la personnalité à peu près qu'on pense que les chiens vont s'adapter à la personnalité de la personne qui vient chercher son chien. Puis là, ben, l'apprentissage commence. C'est un mois de temps. C'est 4 semaines de classe à la fondation. On travaille 6 jours par semaine et on a toujours des instructeurs qui sont sur place. Donc, on passe vraiment un moment privilégié avec ces gens-là qui sont chez nous. C'est comme, nous autres, on dit toujours que c'est comme une traversée en bateau. Souvent, on est 8 personnes. C'est pas tout le monde qui se connaisse. Puis à la fin des classes, souvent, ça devient vraiment des potes pour le restant de la vie, parce que le premier chien, c'est vraiment quelque chose qui est fort dans l'esprit puis dans les souvenirs de tout le monde.
Est-ce qu'il arrive que l'arrimage ne fonctionne pas, le chien que vous avez
Absolument.
Pensé? Ah oui, puis qu'est-ce
Absolument.
Que vous faites dans ce temps-là?
Bien, on change de chien. Faut justement avoir avoir nos radars bien allumés. Là, on a des signes. Qu'on s'aperçoit souvent que la personne, on voit que bon, on n'a pas, on voit que la colle ou le gâteau lève pas, on voit qu'il y a des déceptions, on voit que le chien est pas vraiment, aligné vers la personne, on voit que ça marche pas ou peut-être pas capable de vraiment contrôler le chien dans des moments adéquats. Fait qu'il faut vraiment, les instructeurs, notre travail, c'est vraiment de rester très 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 à l'affût de ça et d'être toujours prêt. De savoir, oh, peut-être que là, ça colle pas, puis de mettre un autre chien. Mais on est toujours, on a souvent, je dirais 90% du temps, on a toujours un backup comme chien qui est une espèce de. Donc, toujours un backup pour que si les équipes ne marchent pas, on a un deuxième choix pour essayer le plus possible que le gâteau lève.
C'est une démarche qui est extrêmement sérieuse.
Absolument, absolument. C'est de la réadaptation, de la vraie réadaptation. On est extrêmement sérieux de la façon qu'on intervient avec les gens qui viennent chez nous. La sécurité est notre premier point à chaque fois. On veut que les gens aient le contrôle de leur chien. On veut qu'ils comprennent ils sont où dans l'environnement. On veut que ces gens-là soient en contrôle total de qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Puis moi, mon travail, ben les gens arrivent avec un certain potentiel. Puis moi, mon but, c'est toujours d'essayer de pousser les gens à leur maximum potentiel pour qu'ils deviennent plus autonomes, qu'ils réalisent des choses qu'ils faisaient pas avant à la maison. C'est-à-dire, je prends un exemple que j'ai vu et j'ai vécu souvent, des gens qui ont des basses visions, puis des maladies dégénératives, que bon, ces gens-là sortaient plus le soir parce qu'ils avaient peur. Ils viennent chez nous, ils ont suivi des cours en orientation mobilité, ils ont pris le bandeau, ils ont compris leur son, ils comprennent leur environnement, sont capables de se faire une bonne représentation spatiale. Ils viennent de chercher un chien chez nous, puis maintenant, ils n'ont plus de limites, ils peuvent aller sortir, aller faire l'épicerie, même s'il est rendu 4h30, 5h le soir à l'automne, puis normalement, ils ne sortaient pas, ou ils ne sortaient jamais prendre une marche parce qu'ils ne voulaient pas déranger personne pour prendre une marche, ou d'aller carrément, de retourner à l'école, d'aller voir des amis. Fait que moi, ça, c'est des choses que, pour moi, est vraiment, vraiment pourquoi que je fais ce travail-là puis pourquoi j'entraîne des chiens. Hein.
Monsieur Saint-Pierre, vous restez avec nous. On va faire une pause musicale parce que je veux absolument qu'on parle du volet de chiens pour enfants autistes. Alors, on va prendre une pause musicale. On est de retour avec Monsieur Nicolas Saint-Pierre, directeur général de la Fondation MIRA.
Mother sky is gray, it's just another day since you've gone away, and I think of you. I thought the rain would wash out the pain, and I thought in vain that joy would remain when I think of you. Seems to fade away. I see some children play, and I start to pray not to think of you. And now the rain plays a sad refrain on the window pane as I try in vain not to think of you. Running as fast as they can, remind me of you. Those who believe that hearts can mend and are together till the end, remind me of you. The latter day now has gone away. Will it find its way till the break of day as I think of you? Still the rain seems to cry in vain with that same refrain as I try again not to think of you. As they can remind me of you. Those who believe that hearts can mend and stay together till the end remind.
Sur Canal M, c'est notre émission Regard sur le monde. Nous sommes toujours en compagnie de M. Nicolas Saint-Pierre, qui est directeur général de la Fondation MIRA.
M. Saint-Pierre, on s'est laissé avant la pause musicale concernant les chiens pour enfants autistes. Qu'est-ce que c'est exactement?
Absolument. En fait, c'est des chiens qui accompagnent les familles et les enfants, évidemment, dans leur vie quotidienne. Quand les enfants sont un petit peu plus vieux, il y en a qui ont la capacité d'amener les chiens à l'école. Donc, c'est des chiens qui sont vraiment, qui ont ont un rôle de chien, c'est-à-dire être un ami, être là. La chance que les chiens ont, c'est que bon, les parents peuvent les amener au travail, peuvent les amener dans les endroits publics avec les enfants. Donc, ce que ça fait, c'est que ça, la plupart du temps, ce qu'on observe, c'est que le niveau de stress que les enfants vivent à travers différentes étapes du quotidien de la vie, c'est pas mal moins élevé parce que ça les rattache aux chiens. Donc, il y a différents enfants qui ont, bon, dépendamment de la gravité dans le spectre qu'ils sont, de comment ils sont sévères ou plus légers. Il y en a qui sont non-verbales, qui, bon, ils ont commencé à parler, qui parlent pour la première fois aux chiens. Beaucoup, il y a le sommeil aussi qui est plus calme, surtout pour les parents, parce que les enfants restent dans leur chambre, ont moins de cauchemars et d'anxiété élevée avec les chiens dans la chambre, les chiens couchés dans les lits, puis tout ça. Fait que c'est vraiment des chiens qui accompagnent les familles. C'est vraiment des chiens, c'est vraiment un nouveau membre de famille.
Quelle est la principale différence entre l'entraînement d'un chien pour non-voyants et l'entraînement d'un chien pour les enfants autistes?
Bien, en fait, les chiens guides, le travail des chiens guides, c'est d'avoir des initiatives, être capable de se déplacer dans l'environnement pour éviter les obstacles, traversant les droites, d'être capable d'être des guides. Tandis que les chiens qui sont pour avec les enfants TSA, ils sont plus, c'est des chiens qui sont plus, leur travail, c'est plus le travail plus de partenaire, d'amis, d'être là, d'être facile, parce que c'est surtout le point où est-ce que nous autres, c'est important, c'est que quand on donne ces chiens-là aux familles, ils en ont déjà quand même plein les bras avec le quotidien, avec des fois, ils en ont deux, trois enfants, puis après ça, là-dedans, il y a un petit gars ou une petite fille qui était à ça. Le but, c'est si tu rajoutes un chien dans la cellule familiale, que ce soit pas compliqué. Parce que les chiens, il faut qu'ils soient extrêmement obéissants. Bon rappel, une marche au pied impeccable, pas d'attirance, capable d'arrêter de jouer quand c'est le temps, d'être calme dans la maison quand c'est le temps. Donc, c'est vraiment plus des chiens, des compagnons, des bons compagnons. Contrairement au chien guide, où est-ce que le chien guide, dans son travail, c'est évidemment être un guide, donc d'avoir des initiatives, d'être capable de s'asseoir dans un métro, être capable de rentrer dans une rampe de métro, aller aux bonnes places, donner les escaliers, traverser les rues en ligne droite, pas d'être attiré aux autres animaux. C'est tout ce travail-là.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez développé ce volet de chiens pour enfants autistes?
On avait beaucoup de demandes. Il y a à peu près une dizaine d'années de parents qui étaient complètement parce que l'autisme, au Québec, si on se rappelle, il y a 10 ans, moi, même nous, on ne connaissait pas beaucoup ça. Mais Noël Champagne, qui est psychologue chez nous, avait beaucoup d'appels de parents qui étaient en détresse, qui ne savaient plus quoi faire avec les enfants là, pour essayer de trouver une façon de stimuler ou de calmer. Fait que l'instinct des parents à aller vers les animaux était très, très juste. Puis nous, ben, on donnait des chiens guides, puis ça arrivait des chiens qui ne passaient pas. Les évaluations pour être chien guide, ça reste quand même des excellents chiens. Puis on a fait des tests, puis on s'est aperçu que ces chiens-là avaient vraiment un effet positif. Puis quand on a vu bon que c'était observable, on n'avait pas de données scientifiques exactes, mais là, les chercheurs ont commencé à travailler avec nous pour voir justement c'est quoi l'effet des chiens sur la famille. Fait qu'on a eu... On a vraiment regardé ça avec le cortisol. On a fait une recherche qui est sortie à peu près il y a 3 ans, vraiment au niveau du cortisol qui a descendu dans la cellule familiale en présence des chiens. Donc, à partir de là, on a ouvert les valves, comme on dit, de donner plus de chiens à ces enfants-là, à ces familles-là. Puis, on est extrêmement chanceux de voir comment on donne un coup de main à ces familles-là. Puis, en même temps, nous autres, on est content parce que ça a ouvert une offre qu'on n'avait pas avant, puis qu'on est super content de pouvoir donner.
Le temps file rapidement, M. Saint-Pierre. C'est extrêmement intéressant ce que vous nous racontez. On parle maintenant des chiens d'assistance. Qu'est-ce que c'est?
Ben, en fait, les chiens d'assistance, c'est des chiens qu'on a commencé à donner il y a une vingtaine d'années à des gens qui étaient en fauteuil roulant. Puis, c'est encore là, c'est un concours de circonstances. C'est un monsieur qui avait... qui était en fauteuil roulant, qui était paraplégique. Puis, à un moment donné, il s'est dit, « Hey, ce serait le fun si je pouvais avoir un chien de donner un coup de main pour me tirer mon fauteuil quand on est dans la gadoue, disons. » Fait que nous, encore là, on avait des chiens qui tranquillement qu'on déclassait des chiens guides, puis qu'on avait des chiens qui étaient trop forts ou trop actifs pour ça, mais on s'est dit, pourquoi qu'on n'essaie pas de travailler avec Raymond dans le temps pour pouvoir donner un coup de main. Puis là, on s'est aperçu que non seulement ça lui donnait un coup de main, mais qu'il y avait vraiment un plaisir, encore l'effet du chien, évidemment, au niveau social, où est-ce que les gens, bon, ils sont curieux, son chien, qu'est-ce qu'il fait pour lui, puis ça, puis c'est devenu quelque chose de bien gros. On s'est mis à travailler avec les centres de réadaptation, développer notre offre, travailler avec des gens qui ont des maladies dégénératives comme la sclérose en plaques, puis de voir comme des gens qui sont peut-être de repousser justement le moment d'être assis dans un fauteuil, puis être capable d'avoir un chien de support, c'est-à-dire qu'un chien qui marche à côté de la personne, puis le chien est un peu comme une canne, mais qui étonnamment, par son initiative de mouvement, bien, ça fait que les gens marchent plus, donc repoussent le moment de pouvoir s'asseoir dans un fauteuil. Donc, des rapports d'objets, d'être capable d'ouvrir le frigidaire, d'ouvrir des portes, puis toutes des fonctions, où est-ce que ça donne un coup de main aux personnes handicapées physiques. Puis ces chiens d'assistance-là, bien, nous, on s'est amélioré avec le temps pour donner des meilleurs chiens à ces gens-là. Puis depuis ce temps-là, bien, on donne à peu près une soixantaine de chiens par année à des gens en fauteuil roulant ou en des gens qui ont des maladies dégénératives physiques.
C'est incroyable, M. Saint-Pierre. Vous parlez de votre univers avec tellement de passion. Est-ce que je me trompe ou votre père était le fondateur de Mira?
Non, vous ne vous trompez pas. Mon père est le fondateur avec ma mère. Moi, j'ai grandi au Chenil, donc j'ai repris la relève il y a 3 ans à la direction générale, mais j'ai grandi dans cet environnement-là. Je gardais des enfants non-voyants quand j'avais 14 ans, puis c'était les premières classes avec qui on donnait des chiens aux enfants, parce qu'on était la première école de chien guide à donner des chiens à des enfants de moins de 15 ans. Puis moi, j'ai grandi là-dedans, donc c'est toute une histoire. On est bien, bien fiers. On est fiers parce que le Québec a cru en nous, a cru à ce qu'on a fait, puis nous croit toujours en ce qu'on fait, puis je pense que on est bien chanceux de savoir, finalement.
Est-ce que vous allez écrire un livre sur votre histoire?
mon père est parti là-dessus, dans un projet de retraite, il est parti là-dessus. Moi, je verrai, c'est le début de mon aventure en tant que directeur général, donc il me reste bien des aventures et bien des histoire à faire.
Il y aura un tome 2 alors.
Alors, pour vous rejoindre, M. Saint-Pierre, on fait quoi?
Bien, toujours pour nous donner un coup de main, il y a Mira.ca, qui est notre site web, qui est très facile. Ou sinon, bien, on a le 450-7953725, c'est notre numéro de téléphone sur la Rive-Sud, où est-ce que notre bureau-chef est en Montérégie, à Saint-Hilaire, et en Saint-Hilaire et Saint-Pierre, à Saint-Madeleine.
Nicolas Saint-Pierre, directeur général de la Fondation Mira, et on va vous réinviter, M. Saint-Pierre. On va faire une heure avec vous.
Dans nos studios.
On va faire une heure avec vous, parce que c'est absolument passionnant. Bonne continuité, bravo pour ce que vous faites.
Merci beaucoup, merci.
Au plaisir, au revoir.
Au revoir.
Alors, parmi nos nouvelles, parmi nos informations de ce qui se passe dans le domaine de la déficience visuelle, Diane, eh bien, j'ai mis la main sur quelque chose de très intéressant qui est en lien avec l'entrevue qu'on vient de faire avec M. Saint-Pierre. C'est qu'il y a de nombreuses personnes non-voyantes sont aujourd'hui accompagnées au quotidien par un chien guide, un dispositif dont l'origine est due au hasard. C'est en 1916, en pleine Première Guerre mondiale, le docteur allemand, là vous excuserez mon allemand, là, mais je crois que c'est Gerhard Stalling, soignait dans un hôpital militaire les soldats ayant perdu la vue à cause des gaz toxiques utilisés sur les champs de bataille. Tandis qu'il marchait dans un jardin avec son berger allemand et un homme blessé, le praticien a été appelé ailleurs en urgence. Il a donc laissé le patient seul avec son chien. À son retour, le docteur s'est rendu compte que le client tentait d'aider le non-voyant à se déplacer, notamment en lui poussant les jambes. Le médecin s'est inspiré de cette idée pour créer dans la foulée la première école de chiens guides. Celle-ci n'a pas duré, mais cette méthode a été reprise rapidement à travers le monde et Mira en est un exemple concret. La Banque du Canada a annoncé qu'elle mettra fin progressivement au programme de distribution de lecteurs de billets. Ces appareils portatifs qui déchiffrent les codes pouvant être lus par machine permettent de distinguer les coupures. La technologie étant en constante évolution, la banque a déterminé qu'il existe des dispositifs plus modernes que les lecteurs pour identifier les billets. Alors, pour ceux qui utilisent un téléphone intelligent ou une tablette, la banque a évalué les applications sur le marché, entre autres Seeing A1 et Nant Mobile Money Reader, qui permettent toutes deux l'identification fiable et rapide des billets de banque canadiens. L'emploi d'applications comporte plusieurs avantages. On peut les télécharger et en faire l'essai gratuitement et facilement. On peut les mettre à jour sans problème à mesure que de nouveaux billets entrent en circulation. Contrairement aux lecteurs de billets de banque qui n'ont qu'une seule et unique fonction, les téléphones intelligents et les tablettes comportent des modes d'identification intégrés pouvant répondre à divers besoins. Les prochains billets, d'ailleurs, auront également des éléments d'identification qui aideront les personnes aveugles ou ayant une vision partielle à distinguer les 5 coupures avec confiance. Il s'agit de l'élément tactile, des gros chiffres sur fond contrasté et des couleurs distinctes de chaque coupure. La banque lance également un rappel avec le plus récent modèle de lecteur afin de le mettre à niveau et d'en améliorer le fonctionnement avec les billets en polymère qui sont en circulation. Alors, la Banque du Canada va communiquer par téléphone avec les personnes qui ont reçu ce modèle de lecteur de billets pour leur offrir un nouveau lecteur mis à jour. On procédera à un échange d'appareils pour éviter que les utilisateurs se retrouvent sans lecteur. Et Diane, ce qui est intéressant, c'est dans cette nouvelle, c'est que les prochains billets de banque auront également des éléments d'identification qui aideront les personnes aveugles ou ayant une vision partielle à distinguer les coupures.
Qui, oh, oh, je ne veux plus m'endormir. m'a jeté un sort. Je perds tout ce que j'aime et même le nord.
De retour à Regard sur le monde sur Canal M. Vous savez, Diane, je suis d'une personne de région. J'aime les régions. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on a eu en entrevue une dame de Gaspésie des îles de la Madeleine qui nous parlait de ce qu'ils font au niveau de support pour les gens qui sont en déficience visuelle. Bien, on a au bout du fil Mme Solange Roy, qui a été présidente du Conseil des aveugles de Memphrémagog pendant près de 15 ans. Bonjour, Mme Roy.
Bonjour.
Merci de prendre le temps de nous parler de ce que vous faites dans la belle région de l'Estrie. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle du Conseil des aveugles de Memphrémagog?
On est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion d'un pictogramme pour identifier les personnes handicapées visuelles. On fait aussi de la promotion et de la défense des droits, ainsi que de la récréation, parce qu'en étant une petite municipalité, on ne peut pas avoir deux organismes pour faire un de la défense des droits et l'autre de la récréation. Donc, notre organisme fait les deux.
La défense des droits des personnes handicapées visuelles, ce n'est pas une mince tâche. Donc, est-ce que vous avez constaté des avancées dans votre région depuis que vous vous impliquez?
C'est sûr qu'au niveau de la circulation, on a réussi à avoir deux feux sonores à Magog. On l'a déjà eu, mais quand il y a eu la nouvelle une réglementation sur le virage à droite, il avait tout été enlevé. Alors, on a réussi à en faire installer deux nouveaux. Maintenant, on fait encore des pressions pour en avoir d'autres à des endroits plus stratégiques. Maintenant, en défense des droits, c'est sûr qu'on essaie d'appuyer nos membres dans leurs demandes un peu du quotidien. Puis on est affilié aussi au regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Alors, on fait des pressions avec eux pour avoir plus de documentation, mettons, en gros caractère ou en braille. C'est un petit peu le genre de défense des droits qu'on fait.
Est-ce que vous fonctionnez avec une espèce de membership ou comment ça fonctionne exactement?
C'est un conseil d'administration. Puis, on a une employée à temps partiel, elle fait 3 jours semaine, qui répond aux exigences du CA pour donner un peu d'assistance à nos membres, parce qu'elle est au bureau en étant 3 jours semaine, s'il y a des gens qui ont des demandes spéciales à faire remplir des documents, ou au bureau, on a une télévisionneuse. Alors, les personnes qui n'en ont pas chez elles peuvent venir au bureau pour se servir des appareils qui sont à leur disposition.
Vous desservez combien de personnes? Combien de personnes sont dans l'environnement du conseil à Magog?
Comme membre actif, on a environ 35.
Donc, c'est beaucoup de gens là, qui peuvent bénéficier de vos services.
Exactement. C'est sûr qu'il y en a quelques autres, même peut-être plusieurs autres, mais il y a une couple d'années, ce qu'on veut répéter probablement l'an prochain, on a fait une demande avec le Centre de réadaptation Esprit, parce qu'on n'a pas accès aux listes de leurs membres, mais on a fait une demande avec eux qu'on a fourni de nos dépliants avec une lettre les invitant à faire partie du Conseil des aveugles s'ils sont vus au Centre de réadaptation Esprit. C'est donc qu'ils sont soit aveugles ou handicapés visuels. Alors, c'est de cette façon-là qu'on fait aussi un peu de promotion pour faire connaître notre organisme.
Et votre organisation permet de briser l'isolement. C'est ça la grande problématique pour les gens, hein, qui ont des problèmes en déficience visuelle ou en basse vision.
Oui. Nos personnes, on fait à tous les mois environ un café-rencontre ou un déjeuner-conférence et on rejoint tous nos membres à ce moment-là et nos membres sont tous, on ne charge pas cher pour leur déjeuner, le reste c'est le conseil des aveugles qui le paye, mais chaque membre actif a droit à son accompagnateur pour ne pas arriver seul.
Quels sont les sujets que vous traitez généralement dans ces conférences?
On a plusieurs organismes qui viennent faire connaître leurs organismes chez nous. Et on a eu une conférence de la CAVAC, on a une conférence sur la maltraitance des aînés, on a les cuisines collectives qui sont venues nous expliquer un peu ce qu'ils font pour faire des repas avec d'autres personnes que les gens peuvent apporter chez eux. On a eu le transport adapté qui sont venus nous faire une conférence pour inciter les gens à s'inscrire et avoir un déplacement à moindre coût. On a eu aussi un policier qui est venu nous parler de la prévention et un pompier, la prévention des incendies aussi.
Oui. Effectivement, les personnes en déficience visuelle ont un quotidien comme n'importe qui. Sur votre site Internet, vous parlez que vous faites des activités de sensibilisation auprès des écoles.
Oui, c'est à la demande des écoles. Mais dernièrement, on n'a pas eu beaucoup de demandes, mais on a déjà été porté des documents pour informer les jeunes sur la problématique des personnes handicapées visuelles ou aveugles. Et à l'automne, on a toujours une journée des organismes. On fait ça dans un centre d'achat et tous les organismes communautaires de la ville sont là pour présenter leur organisme et un peu ce qu'on fait là. Et à ce moment-là, notre kiosque est assez achalandé parce que les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on a comme recours ou comme équipement, comme outil pour se débrouiller dans la vie là.
Voyez-vous une augmentation de la clientèle chez vous?
Oui, ça l'a augmenté pas mal. C'est sûr que peut-être la dernière année, on a perdu plusieurs membres là, parce que c'est sûr que nos membres sont d'un certain âge. Là. Mm-hmm. La déficience visuelle, des fois, vient avec l'âge. Alors, on a perdu quelques personnes âgées. Mais en gros, on se maintient pas mal entre 34, 37. Là, mais ça, c'est depuis peut-être 4-5 ans. Avant, c'était 27, 28. Mais ça remontait un peu, là.
Votre organisation répond vraiment à un besoin. On va faire une pause musicale, Mme Roy. On va vous dédier la chanson. C'est une chanson de Luc de la Rochelière. Mais pendant la pièce, j'aimerais que vous réfléchissiez sur quelque chose. Diane et moi, on a une question pour vous, parce que vous avez été présidente quand même pendant 15 ans. On souhaiterait que vous nous parliez de ce sur quoi vous êtes le plus fier au cours des 15 dernières années. Alors, on se reparle tout de suite après la chanson de Luc de la Rochelière.
Parfait.
Il est 5 heures du matin. La nuit me mène à rien. Dis, qu'est-ce que tu dirais si je te disais reviens? J'ai la tête aux ordures, j'ai le cœur dans la friture. Mon lit c'est un champ de bataille, tout ça a pas d'allure. La poussière fait des boules comme des moutons qui roulent. J'en fais maintenant l'élevage, l'ennui fait ses ravages. Jamais ton sauveur, j'ai tout juste le courage. J'ai ramassé mes miettes, je les ai mises dans le grille-pain, ça me réchauffe chaque matin.
Nous sommes déjà dans le dernier droit de l'émission Regards sur le monde sur Canal M. Nous sommes en compagnie de Mme Solange Roy, qui a été présidente du Conseil des aveugles de Memphrey Magog.
Alors, Mme Roy, la musique vous a certainement inspiré dans vos réflexions, une belle chanson de Luc de La Rochelière. Alors, quels sont... Vous êtes donc impliqué pendant 15 ans. Vous avez certainement porté des différents projets. Donc, quelles sont les réalisations dont vous êtes fière?
Bien, c'est peut-être plusieurs petits points. C'est sûr que durant les 15 ans, j'étais là. J'étais aussi, avant d'être présidente, vice-présidente et trésorière.
Donc, au total, alors, ça nous amène à combien d'années?
Depuis 1982 environ.
OK. C'est 18, ça veut dire une grande implication.
35 ans, là. Mm-hmm. Mais je suis restée encore vice-présidente. Au début du temps où j'ai été élue sur le conseil d'administration, on m'a donné la charge de trésorière et c'était un dossier qui n'avait même pas de livre. Alors, j'ai dû monter toute la comptabilité pour l'organisme. Et quand l'ex-président est décédé, j'ai pris la présidence et là, j'ai installé une pochette d'informations. On a investigué une pochette d'informations pour donner aux nouveaux membres tous les bénéfices qu'ils peuvent avoir, soit le 411 pour le BEL, les logements adaptés, s'inscrire à l'INCA, le transport adapté. Alors, à chaque fois qu'il rentre un nouveau membre, on leur donne une pochette avec environ, il doit y avoir 14 ou 15 items dans les pochettes pour leur donner un début d'information en attendant qu'ils puissent participer aux déjeuners-conférences pendant lesquelles on donne encore d'autres informations. Alors, c'est sûr que j'ai monté ça au début de ma présidence. Ensuite, bien, c'est sûr qu'il y a les signaux sonores là, que j'ai réussi à me faire une place... me faire un chemin pour parler à la mairesse, aller faire nos revendications pour avoir des signaux sonores. Ça, je suis fière de ça aussi parce qu'ils avaient enlevé avant que je devienne présidente. Alors, quand j'ai pris la présidence, j'ai dit un dossier qu'il faut revendiquer pour pouvoir sortir en sécurité dans la ville de Magog. Alors, c'est un petit peu ces points-là que j'ai organisés et aussi les déjeuners-conférences. C'est pas grand-chose, mais à chaque déjeuner, j'ai pris la décision de souhaiter les anniversaires pour chaque personne de ce mois-là. Et à ce moment-là, leur déjeuner leur est offert gratuitement.
Wow, c'est une belle attention.
Oui, ben je me dis, tu sais, c'est l'anniversaire, alors on souligne ça à chaque déjeuner conférence. Alors ensuite, ben c'est peut-être des petits projets là, comme je parlais des équipements tantôt. Alors c'est des équipements qu'on a achetés avec un montant qu'on avait eu qui était affecté pour acheter un immeuble, mais comme on ne pouvait pas acheter d'immeuble, on a demandé aux donateurs si on pouvait acheter de l'équipement pour nos membres, puis il l'a accepté, alors j'avais fait la démarche, puis il l'a accepté, alors on est content de pouvoir offrir ce service-là à nos membres.
Mais bravo, Mme Roy, vous nous parlez de petits projets, mais en fait, ce ne sont pas de petits projets, je trouve.
Qu'est-ce qui vous a... Des projets qui mènent loin.
Ben oui, qui sont des grands projets pour ceux qui en bénéficient. Je suis curieuse de savoir, qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer dans cette association?
Bien, moi-même, handicapée visuelle. Quand plus jeune, ben je m'organisais avec ce que j'avais. Je connaissais pas vraiment le Conseil des aveugles. Et à un moment donné, j'ai rencontré une dame qui faisait partie du Conseil des aveugles. Elle connaissait mon père parce que mon père avait un commerce. Alors, elle a dit pourquoi qu'elle vient pas avec nous autres. Puis, à fin de compte, de moi-même, j'ai rejoint l'organisme pour participer à leur activité pour connaître un peu plus le monde des personnes handicapées visuelles, parce que côtoyer d'autres personnes, c'est valorisant aussi là, pour nous autres. En étant handicapée visuelle, ben, je me suis dit, bon, je ne suis pas toute seule comme ça. Là.
Mm-hmm.
Alors, c'est de cette façon-là que j'ai commencé à participer aux activités de l'organisme. Puis le président qui était là en poste, ben, à un moment donné, il y a eu des élections, puis on m'a présenté sur le conseil d'administration, j'ai été élue. Alors, à partir de là, j'ai toujours continué à faire du bénévolat pour l'organisme.
Vous êtes donc atteint de cécité. Moi, je serais curieux de savoir, qu'est-ce que vous dites à une personne, un nouveau membre qui arrive? Cette personne-là est au désespoir, sûrement, parce que quand on perd la vue, c'est quelque chose de très grave. Et j'imagine que les rencontres que vous avez donnent beaucoup d'espoir, donnent de l'encouragement aux gens. Qu'est-ce que vous dites à vos nouveaux membres?
Mais dans le fond, quand ils arrivent chez nous, assez souvent, ils ont rencontré une travailleuse sociale au Centre de réadaptation Esprit. Alors, quand ils arrivent chez nous, c'est sûr qu'il y en a à un moment donné, même s'ils ont rencontré la travailleuse sociale, qui ont eu un peu de soutien, bien, il y en a qui sont découragés aussi. Alors, tu sais, je leur dis, bien là, on va s'occuper de vous et on va essayer de vous créer des liens avec les autres personnes pour que vous vous sentiez moins seul dans votre problème, parce que en étant avec d'autres personnes, comme cette personne-là, bien là, elle comprend qu'elle n'est pas toute seule, elle non plus, là. Elle a d'autres personnes qui sont comme elle, puis qui ont réussi à foncer, qui ont réussi à avancer. Alors, tu sais, je me dis, il faut mettre toutes les chances de notre côté pour essayer de continuer à bien fonctionner, là.
Vous jouez un rôle majeur, on le dit souvent, les bénévoles. Si on n'avait pas de bénévoles dans notre société, on aurait des problèmes, de sérieux problèmes. Est-ce que vous avez une relève, Mme Roy?
Justement, cette année, c'est pour ça que j'ai laissé la présidence, parce qu'il y avait une personne que je pensais capable de prendre la présidence, et cette année, elle m'a dit qu'elle était prête. Alors, c'est pour ça qu'au mois de mai, aux élections, j'ai laissé la présidence à une autre personne plus jeune que moi, qui était vice-présidente avant. Alors, on a changé de chaise. Elle est devenue présidente et moi vice-présidente.
Vous allez vous reposer un petit peu. Quels sont les projets que le Conseil des aveugles de Memphrey-Magog compte mettre de l'avant pour les prochains mois?
Pour les prochains mois, bien, mm-hmm. C'est sûr que là, on va revendiquer un autre feu sonore, parce que ça fait déjà un an que le dernier a été installé. Alors, on va en revendiquer un autre, c'est certain. Et ensuite de ça, ben on prépare le salon là, des organismes communautaires au mois de novembre pour donner encore plus d'informations aux membres. Et on veut aussi faire un autre appel à Magog et aux environs de Magog pour les personnes qui sont atteintes de cécité, ben puissent rejoindre l'organisation là. Parce que on le sait qu'il y en a plusieurs des alentours, mais qui sont pas prêts. Comme je disais à la personne du centre de réadaptation esprit, elle leur en parle, puis bien souvent, c'est plus facile pour eux autres si c'est moi qui les appelle que deux autres faire la démarche.
Oui, c'est les gens sont je ne sais pas si c'est de la gêne ou enfin c'est une fausse modestie. Ouais. On peut vous rejoindre à quel numéro de téléphone, Mme Roy? On peut rejoindre le conseil à quel numéro?
C'est dans le 819 868 0091.
Donc, on invite les gens. Et vous avez aussi un site Internet, hein?
Oui, c'est ça.
C'est quoi l'adresse du site Internet? Est-ce que vous l'avez? Je l'ai ici. C'est Conseil des aveugles de memfremagog.com. Voilà. Conseil des aveugles de, au pluriel de memfremagog.com. Madame Roy, bravo pour ces 35 ans. Au Conseil des aveugles de Memfremagog. On est très content de vous avoir eu avec nous, au moins pour souligner le travail que vous avez fait.
Plusieurs années restent à venir aussi, ce que je peux comprendre.
Pardon?
Plusieurs années restent à venir encore, on dirait.
Tant qu'ils vont vouloir de moi.
Alors, on vous souhaite longue vie, Mme Roy. Merci d'avoir été à notre micro.
Merci.
Merci.
À vous.
Au revoir. Et voilà, c'est déjà tout pour notre émission Regard sur le monde sur Canal M. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.